France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. À 5 jours du vote de confiance à l'Assemblée, François Bayrou tente toujours de conjurer le sort qui lui est promis, ce qui ne l'a pas empêché ce matin de ne faire aucune concession aux socialistes pour tenter d'inverser leur décision de faire tomber son gouvernement, soit la stratégie exactement inverse, on le verra, de celle préconisée par le camp présidentiel. Et puis à une semaine de l'appel du 10 septembre à bloquer le pays, on se demandera avec notre invité ce que l'on sait exactement de ce mouvement et de ce qu'il faut en attendre. On parlera grand écran et gros sous avec la volonté du groupe Canal+, contrôlé par le milliardaire conservateur Bolloré, d'acquérir UGC. Puis l'actualité à l'étranger, nous serons en Ukraine tout d'abord après une attaque massive la nuit dernière depuis la Russie. On s'intéressera également à cette offensive israélienne contre des casques bleus au Liban. Enfin, nous serons à Bruxelles au moment même où la Commission doit soumettre pour approbation l'accord commercial du Mercosur. C'est son chemin de croix, lui, censé prouver sa dévotion totale et entière au pays. Depuis le début de la semaine, François Bayrou multiplie les consultations politiques avec chacun des chefs de parti représentés au Parlement. Sans succès, évidemment, un véritable calvaire, puisqu'en réalité, le Premier ministre le sait bien, le miracle n'a aucune chance a priori de se produire lundi prochain, date de la disparition programmée donc de son gouvernement. Et c'est ainsi que durant toute cette séquence sacrificielle, le camp présidentiel commence déjà à mettre en scène ses préparatifs pour le jour d'après. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Hier, lors d'une réunion des participants du bloc central à l'Élysée, Emmanuel Macron a appelé le camp gouvernemental à travailler avec les socialistes pour élargir son assise. Ce matin, dans un entretien au Financial Times, c'est le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, qui estime à son tour que des compromis avec les socialistes sur le budget seront inévitables. Enfin, dans les colonnes du Monde, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, juge, elle, possible de discuter de beaucoup de choses avec, encore une fois, les socialistes.
Oui, la ministre l'a précisé ce matin chez nos confrères de France Info. Dans le budget proposé par le PS le week-end dernier à Blois, il y a plein de choses sur lesquelles ils savent que nous sommes prêts à travailler, assure-t-elle, citant le travail qui doit payer davantage ou encore la fiscalité qui ne doit pas reposer sur les actifs. Elle va même plus loin, critiquant la mesure de suppression de 2 jours fériés portée par le Premier ministre. On ne peut pas, dans notre pays, dire « travaillons tous plus, mais ne gagnons pas plus ». Alors ce sont aujourd'hui les premières mains tendue concrète du bloc central depuis l'appel d'Emmanuel Macron à travailler avec le PS, mais à gauche, justement, il n'est pas certain qu'on lui rende l'appareil, du moins pour l'instant. Hier soir, sur LCI, le premier secrétaire Olivier Faure s'est dit à la disposition d'Emmanuel Macron pour discuter des conditions dans lesquelles la gauche pourrait être au gouvernement. Mais en coulisses, les bases de discussion n'ont pas évolué côté socialiste. Un gouvernement de gauche d'abord et des négociations ensuite à l'Assemblée pour tenter de trouver des compromis à partir des propositions portées par la gauche, confirme un ténor du parti. Autrement dit, pas question d'élargir l'assise, comme le souhaite le président. Pas de nouveau gouvernement du bloc central avec le soutien du PS. Les macronistes ne peuvent pas se maintenir coûte que coûte et contre l'avis général, ils doivent l'entendre, estime ce proche d'Olivier Faure. Une stratégie jugée pas très cohérente et pas très logique par François Bayrou, invité de BFM ce matin. Vouloir abattre le gouvernement qui est soutenu par le bloc central pour ensuite espérer de ce même bloc central un soutien, je ne suis pas sûr que ça marche, veut-il croire, espérant jusqu'au dernier moment qu'on lui accorde la confiance lundi.
Merci Adrien Toffolet. Puis j'ajoute que ce matin, toujours, François Bayrou a proposé de durcir les conditions d'accès à l'aide médicale d'État, un geste cette fois-ci plus probablement à destination de la droite et de l'extrême droite. Alors toute cette cacophonie à l'œuvre depuis quelques jours semble précéder, on l'a compris, un épilogue aux airs de déjà-vu lors de la chute du précédent gouvernement, mais déjà l'été dernier, même si on ne parlait pas encore, c'est vrai, à l'époque de l'après-Bayrou, un vent de révolte soufflait dans l'air qui a vite fait de se retrouver au cœur de toutes les expectatives médiatiques et politiques. L'appel à bloquer le pays. Cette initiative a pris ensuite une ampleur nouvelle au lendemain justement des annonces de rigueur budgétaire par François Bayrou, au point que le Premier ministre lui-même a d'ailleurs cité ce mouvement parmi les motivations qui l'auraient poussé à demander un vote de confiance de l'Assemblée lundi prochain. Quoi qu'il en soit, et depuis ce matin sur notre antenne, on se demande donc qui se cache derrière ce mot d'ordre « bloquons tout le 10 septembre ». Cette nébuleuse aux accents de gilets jaunes, diront certains, née au départ dans des cercles de l'extrême droite, souverainiste, voire complotiste, a été depuis rejointe par tous les partis de gauche, même aussi certaines centrales syndicales, de sorte que ce front, qui va aujourd'hui de l'extrême droite anti-fiscale à l'extrême gauche sociale, n'échappe pas à certaines contradictions. quelle chance ce nouveau mouvement a-t-il de prendre une ampleur comparable à celle de ses prédécesseurs? Et sous quelle forme, pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Eric Neveu, professeur émérite de sciences politiques au laboratoire à Rennes de Sciences Po Rennes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être, pour commencer, est-on déjà en mesure d'évaluer quelle pourrait être l'ampleur de cette mobilisation mercredi prochain? Une note des renseignements territoriaux évoque ce matin une quarantaine de manifestations partout en France et environ 100 000 participants.
Alors, c'est toujours très paradoxal de vouloir évaluer un mouvement qui n'a pas commencé. Au fond, hier, on pouvait s'appuyer sur le nombre de trains ou de cars affrétés par les syndicats pour des manifestations. Aujourd'hui, c'est plutôt à partir des réseaux sociaux. Donc, ce que disent la majorité de mes collègues qui suivent ça de très près, c'est qu'il y a une vraie activité et attention sur les réseaux sociaux, mais qui, d'une part, est sensiblement inférieure à ce qu'elle était au moment des Gilets jaunes, si on se rappelle de vidéos comme celle de Jacqueline Mouclou, et que beaucoup de messages aussi transitent par Telegram, alors que c'est plutôt Facebook qui reste le réseau le plus utilisé par les classes populaires.
Et sait-on quelque chose de la nature précise, cette fois-ci, des actions prévues donc la semaine prochaine? Cortège, blocage, sabotage?
Bah, je pense que c'est précisément ça l'ambiguïté et peut-être la fragilité, c'est-à-dire qu'on est à J-8. Alors, il faudrait cartographier ce qui se dit sur toutes les boucles locales, mais à l'heure actuelle, on discerne mal les ancrages territoriaux précis du mouvement. Or, une des forces des Gilets jaunes, c'était d'avoir investi les ronds-points et des lieux physiques, qui étaient à la fois des lieux de sociabilité, d'échange, des lieux où il y avait un « nous » qui se cristallisait. On ne voit pas si bien ça se dessiner à l'heure actuelle pour ce mouvement de blocage.
Ça veut dire que la comparaison qui a été faite souvent entre ce mouvement et celui des Gilets jaunes ne vous semble pas opportune ?
Je pense que plus exactement, elle est à nuancer. Alors, si on en croit, par exemple, la note récente de la Fondation Jean Jaurès, ça serait un mouvement dont au moins les noyaux initiateurs sont plus à gauche, sont des gens peut-être socialement plus stables, avec plus de capital culturel, pour employer ce critère. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un des effets des mouvements sociaux, c'est de fabriquer des militants. Et donc, il y a bien un héritage des Gilets jaunes sous forme de militants, sous forme de savoir-faire. D'ailleurs, là aussi, si je me base sur la note de la Fondation Jean Jaurès, il y aurait pratiquement 30% des initiateurs du mouvement qui seraient d'anciens Gilets jaunes. Ça veut dire un capital de réseau, de connexion, de savoir-faire qui peut se mettre en marche.
On l'évoquait en début de ce journal en annonçant donc qu'il solliciterait un vote de confiance de l'Assemblée le 8 septembre. François Bayrou a superposé donc une dimension politique à cet appel, à la mobilisation sociale. Comment le calendrier et donc la chute probable du gouvernement deux jours plus tôt peut-il interférer selon vous avec ce mouvement ?
C'est très difficile. À chaque fois qu'on fait des pronostics sur les mouvements sociaux, en général, on dit des bêtises. Un scénario probable, c'est que ça ait un effet propulseur et que la chute annoncée du gouvernement Bayrou soit perçue comme une victoire, qu'il s'agit de continuer et d'amplifier, peut-être en résonnant sur le fait de faire le pont avec la journée du 18 que préparent les syndicats. Mais on pourrait aussi imaginer que ça ait un effet plus anesthésiant si la question du remplacement d'un gouvernement Bayrou repose le problème de l'influence de l'extrême droite, de menace d'une installation plus à droite du gouvernement, et à ce moment-là, peut-être plus un discours défensif républicain antifasciste.
Vous évoquiez justement les syndicats à l'instant. Comment les organisations professionnelles appréhendent-elles ce mouvement? Est-ce que la position des syndicats vis-à-vis de ces mouvements que l'on dit informels ou gazeux a beaucoup évolué ces dernières années depuis l'émergence justement des Gilets jaunes?
Je pense que les syndicats, alors, dont les positions sont diverses, puisqu'on voit que Sud appelle à des actions, que la CFDT est plus à distance, qu'il y a des fédérations à la CGT qui suivent le mouvement, mais que ce n'est pas la tendance majoritaire. Enfin, les syndicats sont pris dans une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on accepte quelques grandes entreprises privées et pas mal de pans du secteur public, les mobilisations sociales dans les lieux de travail sont devenues extrêmement rares. parce que les syndicats sont faibles, parce qu'il y a des modes de management qui fonctionnent, parce qu'il y a un éclatement des collectifs. Et donc le paradoxe, c'est que souvent c'est hors des lieux de travail que peuvent se développer des mobilisations portant sur des questions sociales ou des droits des salariés. Et donc, du coup, les syndicats sont pris dans un dilemme. Ils ne peuvent pas se dissoudre dans ces mouvements gazeux et ils ne peuvent pas non plus les méconnaître parce que, précisément, c'est là que se construisent des rapports de force et c'est là, on l'a vu pendant les Gilets jaunes aussi, qu'ils peuvent également recruter des militants et se reconstituer. Ce qui a été un des effets du mouvement des Gilets jaunes
encore, à la marche. Encore beaucoup d'incertitudes, on l'a compris. Merci Éric Neveu, professeur émérite de sciences politiques au laboratoire à Rennes de Sciences Po. Rennes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Canal+ ne cache plus son ambition de peser davantage encore dans le paysage du 7e art.
Oui, hier soir, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré a annoncé des négociations exclusives avec le réseau de salles de cinéma UGC pour entrer dans son capital et dans l'espoir d'une prise de contrôle totale en 2028. Alors, il se trouve que cette annonce majeure dans le paysage des salles obscures intervient moins de 4 mois seulement après l'entrée de la famille d'un autre milliardaire, Rodolphe Saadé, propriétaire de CMA-CGM au capital de Pathé. Faut-il s'en inquiéter ? Non, répond Laurent Creton, professeur à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialisé en économie du cinéma. Il explique pourquoi à Fiona Mogadam.
D'abord, on se posait la question depuis longtemps de l'avenir des grands groupes d'exploitation cinématographique avec une inquiétude. Est-ce que ces grandes entreprises pourraient être rachetées par des concurrents étrangers, américains, chinois, que sais-je encore ? Et en fait, le premier élément, c'est de se rendre compte que c'est un rapprochement entre deux groupes français qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui pense cette nouvelle étape de façon stratégique et coopérative. Pour les salles de cinéma, pour UGC qui comporte aussi de la distribution et de la production, c'est d'un point d'appui très important qui consolide. Et pour Canal+, c'est la confirmation de l'engagement de ce groupe en tant que premier partenaire du cinéma français et européen.
Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la diversité des films qu'on pourra trouver dans les salles UGC à l'avenir ?
Évidemment, c'est une question que l'on se pose du point de vue d'indépendants qui pourraient y voir un phénomène de concentration. Mais en fait, l'analyse de ce secteur d'activité nous montre que ce n'est pas de l'intérêt ni de Canal+, ni du GC, de réduire à l'excès la diversité. Cela ne me semble pas être le risque majeur.
Laurent Creton, donc professeur à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, il répondait à Fiona Mogadam.
Midi passé de 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Si façonner le récit national tout en affirmant l'autorité de son parti a toujours constitué la substantifique moelle de la stratégie du président chinois de mettre fin au long siècle de l'Occident, la très spectaculaire parade militaire organisée ce matin, opaque à danser au son des chants patriotiques rythmés par les seules salves de canons, a permis d'affirmer comme jamais la conviction de l'héritier de Mao quant à l'inexorabilité de son plan eurasiatique. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable, a lancé ce matin Xi Jinping, avant de préciser, et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément. Alors évidemment, promouvoir le dialogue plutôt que la confrontation au milieu d'un défilé militaire d'une ampleur sans précédent a quelque chose de surprenant, voire contradictoire, une forme de provocation, en somme comme un avertissement au reste du monde, qui plus est lorsque l'image choisie par le président chinois pour marquer l'histoire le fait apparaître avec à ses côtés le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son homologue russe Vladimir Poutine, considérés comme des paria du fait des ambitions nucléaires de l'un et de sa guerre en Ukraine pour l'autre.
Et à ce titre d'ailleurs, la Russie a lancé cette nuit une vaste attaque avec plus de 500 drones et missiles principalement dirigés sur l'ouest de l'Ukraine.
Poutine fait ici étalage de son impunité, a aussitôt réagi le président Zelensky qui appelle ses alliés à un soutien supplémentaire, que ce soit sur le front ou à la table des négociations. La réunion prévue demain à Paris de la coalition des volontaires devrait clarifier l'engagement des Européens sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et en attendant, l'attaque de la nuit dernière a donc essentiellement ciblé des infrastructures énergétiques et ferroviaires, provoquant des coupures de courant dans de très nombreuses régions. Les précisions depuis Kiev de Bastien Bory.
Depuis 2022 en Ukraine, chaque automne voit revenir l'ombre du même plan russe, frapper l'énergie avant que le froid ne s'installe. Ainsi, entre 1h et 5h30 du matin, 526 drones bombardiers russes et une vingtaine de missiles balistiques et de croisières ont été lancés dans un ciel dégagé, offrant au sol une visibilité totale sur les cibles de la nuit. Transformateurs, trains de marchandises, lignes à haute tension et centrales électriques, occasionnant des dégâts collatéraux sur des immeubles résidentiels et des écoles. Malgré la rapidité des services de réparation rodés à ce type de frappe, plusieurs dizaines de milliers de foyers demeurent sans électricité à Kiev, Odessa et dans l'ouest de l'Ukraine, où l'essentiel des infrastructures énergétiques ont été regroupées à l'abri du front oriental. Pas de pertes civiles, mais des interrogations sur l'efficacité en baisse de la défense aérienne. Vladimir Poutine vise entre autres l'épuisement des stocks de munitions ukrainiennes. Volodymyr Zelensky, lui, veut les reconstituer avec l'aide de ses alliés qu'il rencontrera ce jeudi à Paris.
C'était il y a un peu moins de 10 mois, un cessez-le-feu conclu sous médiation américaine mettait fin à plus d'un an de conflit entre le Hezbollah et Israël, dont 2 mois d'une guerre ouverte. Alors cet accord prévoit en l'occurrence que seule l'armée libanaise et la force de paix de l'ONU, la FINUL, soient déployées à la frontière, ce qui exclut de facto la présence à la fois de la milice chiite et de l'armée israélienne, sauf que cette dernière continue en réalité de maintenir des troupes dans des positions jugées stratégiques dans le sud du Liban, et pas seulement puisqu'elle mène par ailleurs régulièrement des frappe principalement contre des sites et des cadres du Hezbollah. Dernier exemple en date, hier, la force intérimaire des Nations Unies au Liban a fait état de l'une des attaques israéliennes les plus graves, cette fois-ci contre son personnel. Les précisions de Christian Chénon.
Selon la FINUL, des drones de l'armée israélienne ont largué 4 grenades à proximité des casques bleus qui dégageaient des barrages routiers, entravant l'accès à une position de l'ONU proche de la ligne bleue, la ligne de démarcation entre le Liban et l'État hébreu. L'un des projectiles est tombé à moins de 20 mètres et 3 autres à environ 100 mètres du personnel et des véhicules de l'ONU, alors que l'armée israélienne, ajoute la force onusienne, avait été informée à l'avance des travaux de dégagement qu'elle effectuait dans la zone. Pour l'heure, Israël, qui n'a jamais caché son hostilité vis-à-vis de la FINUL, n'a pas réagi. Pendant la dernière guerre entre l'État hébreu et le Hezbollah, un char israélien avait fait feu sur une tour d'observation à Nakoura, blessant 2 casques bleus. 2 autres blindés avaient pénétré de force dans une position onusienne lors d'un autre incident. Cette attaque inédite par drone intervient quelques jours seulement après la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de renouveler pour une dernière année le mandat des casques bleus au Liban avant d'entamer la dissolution de la force intérimaire à partir du 31 décembre 2026, son retrait total devant être achevé fin 2027. Une démobilisation obtenue à la demande des États-Unis et d'Israël. Visiblement, l'État hébreu semble vouloir mettre jusqu'au bout la pression sur la FINUL sur le point de plier bagage.
La France donnera-t-elle son feu vert ?
C'est aujourd'hui que la Commission européenne s'apprête à soumettre formellement pour approbation l'accord commercial dit du Mercosur entre l'UE et le marché commun sud-américain. Après un quart de siècle de négociations, Bruxelles était parvenue en décembre dernier à finaliser cet accord. Reste toutefois à le faire approuver désormais par les pays membres, ce qui nécessite non seulement un vote favorable au Parlement, mais aussi une majorité qualifiée parmi les gouvernements du bloc communautaire. Or, on le sait, plusieurs pays y sont farouchement opposés, au premier rang desquels la France. Alors la Commission pourrait-elle faire un geste pour tenter de convaincre Paris et rassurer également les agriculteurs ? A priori, oui. Élément de explication depuis Bruxelles de notre correspondant Fabien Cazot.
Principale garantie apportée aujourd'hui par la Commission européenne, une clause de sauvegarde qui a été rajoutée à la demande insistante de la France. Il s'agit d'instaurer un contrôle en temps réel dès que l'accord commencera à s'appliquer sur les volumes de marchandises importées du Mercosur ainsi que sur l'évolution des prix, produit par produit, pays par pays. Un contrôle en temps réel qui, en cas de dérapage constaté, permettra de suspendre momentanément les importations dans la filière concernée, d'enquêter sur d'éventuelles distorsions de concurrence et de rééquilibrer la situation. Un mécanisme robuste salue à Bruxelles les diplomates qui ont été à la manœuvre cet été pour négocier ce protocole additionnel. Son accueil par les eurodéputés français de tous bords politiques s'annonce en revanche beaucoup plus réservé, certains estimant qu'il reste un flou sur les conditions d'activation de la clause de sauvegarde, d'autres redoutant que le Mercosur invoque d'autres clauses dans le traité qui lui permettraient d'obtenir des compensations. La Commission européenne insiste pour sa part sur le fait que l'accord sera suffisamment protecteur pour les filières européennes qui pourront par ailleurs exporter plus facilement en direction du Mercosur.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert et pluvieux sur la majeure partie du territoire à l'exception du quart sud-est. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.